Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, voici que nous avons entendu cette parabole bien connue du semeur. Et quand nous entendons cette parabole, on peut se dire que, évidemment, la majorité des semences tombe dans la bonne terre. Quand le semeur va semer, il fait attention de ne pas semer là où c'est inutile, de ne pas semer sur le chemin ou sur les pierres, mais il sème là où la terre est bonne. Mais si le Christ prend cette parabole, évidemment, c'est que il y a la raison, c'est que ainsi nous pouvons mieux comprendre véritablement ce qui se passe avec Dieu en prenant cet exemple concret de la nature. Ce que le Christ veut aussi dire par cette parabole, c'est qu'il ne fait pas de discrimination, c'est-à-dire qu'il permet à tout un chacun qui est sur cette terre d'entendre la parole du Seigneur. Tout le monde peut recevoir cette semence divine, c'est-à-dire cette parole divine, cette parole qui vient, cet évangile, et peut la recevoir. S'il prend l'exemple de ces différentes terres, c'est pour dire justement qu'il ne fait pas, comme je vous le disais, il ne sème pas avec parcimonie, simplement en voyant les gens qui sont bons. Il est avec les bras ouverts pour tout un chacun qui vient dans son église, pour tout un chacun qui vient, que ce soit comme étranger, comme visiteur, ou comme personne plus intéressée et motivée. Et il y a donc cette parole qui est transmise à tout le monde. Et là, il faut comprendre peut-être que, malheureusement, la semence ne tombe qu'en minorité dans la bonne terre et qu'en majorité, elle tombe sur des chemins, elle tombe sur des pierres, elle tombe dans le désert, elle tombe dans des endroits où il y a du feuillu, où il y a des buissons, où il y a même des ronces, et que peu de semences arrivent à donner la véritable bonne plante qui produit du fruit. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces différents exemples? D'abord, le Christ parle de ce chemin sur lequel tombe la semence et que cette semence n'arrive pas à donner du fruit. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Eh bien, c'est la parole qui est annoncée à des personnes qui n'ont pas le cœur disposé à recevoir la vérité, qui ont un cœur qui est plus orienté vers les intérêts mondains, plus intéressé par la gloire de ce monde. Et ce sont souvent des personnes qui, c'est pas pour ça qu'ils ne viendront pas à l'Église, c'est pas pour ça qu'ils seront contre Dieu, mais ils seront plutôt intéressés par des gens qui sont, si je peux dire, des séducteurs. Ce sera plutôt ceux qui vont écouter, ceux qui ramassent les foules, ceux qui ont ce qu'on peut appeler aujourd'hui un charisme. Et malheureusement, ces gens qui recherchent plus de l'émotion, qui recherchent plus du sensationnel, eh bien, iront vers ce genre de personnes et pour eux, la parole de Dieu restera comme impénétrable, ne rentrera pas dans leur cœur, ils resteront comme hermétiques. Et là, forcément, la vérité, la parole mystérieuse du Seigneur ne pourra pas rentrer dans leur cœur parce qu'il faut avoir cette humilité pour la recevoir. Comme dit très bien le mot humus, c'est la terre. Humilité, c'est ce que nous devons essayer d'avoir pour recevoir justement cette semence, cette parole de Dieu, pour qu'elle donne du fruit. Mais si notre cœur est dur, si il est comme le chemin, là où il y a ou bien du bitume, ou bien une terre tassée, eh bien la semence ne peut pas rentrer dans la terre parce qu'il n'y a pas cette humilité. Et donc c'est important de comprendre que dans le christianisme, nous ne cherchons pas à avoir des gens qui sont charismatiques et qui rassemblent des foules. Non, on recherche plutôt des gens qui ont l'humilité parce que c'est à travers cette humilité que parle le Seigneur. Ça, c'est le premier exemple que le Christ donne. Le deuxième exemple, c'est que la semence tombe dans de la terre, mais il y a de la pierre, et cette plante n'arrive pas à prendre racine, et comme elle n'a pas de racine, eh bien, au lieu de grandir dans le sol, elle grandit en apparence, elle grandit vers l'eau très vite, mais comme elle n'a pas de racine, eh bien, elle se fane. Et là encore, un exemple tellement parlant, tellement représentatif de ce qui se passe souvent, c'est que peut-être je peux le dire que des personnes qui découvrent l'orthodoxie au début, ils sont enchantés, ils voient la beauté de l'orthodoxie, la beauté des offices, la beauté de la théologie, la richesse, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans leur ténèbres intérieures, dans leur profondeur intérieure, pour réussir à y planter les racines de l'orthodoxie. C'est-à-dire qu'ils le voient de manière extérieure, ils sont en admiration devant toute cette beauté de la théologie, toute cette beauté divine, mais ils n'arrivent pas à voir qu'en eux-mêmes, il y a quelque chose à creuser, qu'il y a à voir toutes les passions qui sont en chacun de l'homme, toutes les choses qui nous empêchent de faire rentrer cette semence à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cela, des fois, qui est très difficile, c'est d'avoir cette introspection, cette connaissance de soi, de vouloir voir en nous-mêmes les grands ténèbres. Et si nous arrivons à faire cela, si nous arrivons à rentrer dans cette humilité de notre être, de notre réalité ontologique, eh bien, si nous arrivons à faire cela, nous arriverons à rentrer dans la logique de l'orthodoxie, non pas de la voir seulement de manière extérieure, mais de rentrer dans sa logique, qui est une logique extrêmement compliquée, enfin, si je peux dire, plutôt difficile pour l'homme, parce que ça l'oblige à lâcher toute sa structure, tous ses préjugés du fonctionnement personnel. Et cela est une chose très difficile que de pouvoir creuser dans sa terre, faire enlever les pierres et de rentrer, de laisser pousser les racines en soi. C'est peut-être souvent le problème que ont les personnes qui ne sont pas nées dans l'orthodoxie, parce que pour eux, ils ont été formatés dans un monde totalement différent et je pourrais dire même contraire à l'esprit de l'orthodoxie. Et pour eux, c'est très difficile de pouvoir rentrer véritablement dans cette terre profonde et de ne pas être celui que donne le Christ comme exemple, cette plante qui pousse très vite et puis qui se fane. Et le troisième exemple, il parle de lui-même, vous le connaissez, c'est qu'il est vrai que souvent nous sommes tiraillés entre les obligations de la vie, les obligations de la survie, les obligations du monde, les obligations de la famille, des amis, et que cela peut des fois devenir tellement remplissant notre vie que nous n'arrivons plus à consacrer suffisamment de temps à l'essentiel, c'est-à-dire à la vie spirituelle. Et c'est dont parle cette parabole, c'est toutes les ronces qui pousse inévitablement, vous qui, je pense, avez un jardin, ou bien toute personne qui sait un petit peu comment agissent les ronces, c'est terrible parce qu'elles poussent très rapidement et c'est très difficile de les enlever. Il faut presque chaque année, ou je dirais même 6 mois, passer du temps à essayer de les enlever, à les couper d'abord, parce que les déraciner, c'est extrêmement difficile. Mais donc ça exprime bien de nouveau aussi la réalité de notre vie spirituelle, que enlever toutes ces choses qui nous étouffent dans notre vie est une chose terriblement difficile et demande beaucoup d'attention. Et puis le quatrième exemple, c'est celui de la bonne terre, et celui qui a la bonne terre, et bien comme dit le Christ, il était persévérant, il était constant. À travers toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer dans sa vie, il n'a pas désespéré, il ne s'est pas laissé désespérer à cause des obstacles qui arrivaient. Il a, malgré ses erreurs, parce qu'il est inévitable de faire des erreurs même dans la vie spirituelle, que ce soit à cause de nous ou à cause des mauvais conseils qu'on peut avoir, eh bien, il a tenu bon, il ne s'est pas découragé et il a réussi à retourner sa terre, enlever les ronces, enlever les pierres, à toujours avoir une terre qui soit humidifiée, qui soit humble, qui soit cet humus qui reçoit cette semence, et inévitablement cette semence qui est dans cette terre, on ne la voit pas très vite. Elle est là, mais à un moment, elle sort de cette terre et puis elle devient une plante et elle donne beaucoup de fruits. Ce n'est pas toujours visible, c'est des fois avec patience, mais un jour, si on suit cette vie que le Christ, que l'Évangile nous enseigne, un jour, eh bien, cette plante devient véritablement porteuse de fruits, et c'est ainsi aussi que nous devenons des membres du royaume des cieux. Voilà ce que nous annonce et nous rappelle cet évangile d'aujourd'hui. Je voulais seulement clôturer avec le fait qu'aujourd'hui c'est Sainte Paraskeva, qui est une grande sainte pour l'Église orthodoxe, spécialement dans les Balkans. Sainte Paraskeva, dont les reliques sont à Iași, dans la ville de Moldavie. Et cette sainte a vécu au XIe siècle. Elle n'a pas eu une grande renommée durant sa vie. Elle est partie, elle vivait près de Epivates, près de Constantinople. Elle est partie pour vivre au monastère assez jeune. Elle a lâché tous ses biens parce qu'elle était fille d'enfants, elle était fille de parents riches. Et ensuite, elle est partie à 20 ans à Jérusalem, où elle est restée 5 ans, d'abord plus ou moins comme ermite, et un ange lui a dit de retourner dans sa patrie, et de retourner en Thrace, à Kallikratia. C'est intéressant d'avoir ces deux noms, Epivates et Kallikratia, parce que près de Thessalonique, il y a deux endroits qui s'appellent Nea Kallikratia et Nea Epivates. Et donc ça veut dire que ces gens ont déménagé à l'époque vers cet endroit. Et donc cette sainte est morte à l'âge de 27 ans, et miraculeusement ses reliques ont été retrouvées. Et pourquoi est-ce qu'elle est tellement aimée dans les Balkans? C'est parce que ses reliques ont été en Serbie, d'abord en Bulgarie, ensuite après la Serbie sont retournées à Constantinople, et au XVIIe siècle, à l'époque de Vassile Lupu, qui était le prince régnant de Moldavie, l'a fait venir à Iași et l'a déposé dans l'église des trois hiérarques. C'est pour ça que nous voyons souvent l'icône de Sainte Paraskeva avec les trois hiérarques représentés. Et ensuite, elle a été transférée à la métropole, juste à côté à la métropole de Iași, à la cathédrale. Et aujourd'hui, c'est une sainte véritablement vénérée, spécialement en Roumanie, mais partout dans les Balkans. Et elle est pour nous aussi certainement une sainte qui intercède pour que nous ayons aussi la possibilité de vivre notre vie dans l'humilité, et que nous puissions, le jour où Dieu l'accordera, devenir des luminaires comme Sainte Paraskeva, qui n'a pas été connue durant sa vie et restée dans l'humilité. Eh bien, elle est devenue un luminaire pour l'Église orthodoxe. Voilà un bel exemple pour nous que nous essayerons de vivre et de suivre. Amen. Que par les prières de Sainte Paraskeva, nous puissions avoir aussi cette humilité et ce salut.